Session théologique par le Père Philippe à Saint-Jaudard le 8 août 1988.
Et qu'on peut commencer à entrer dans cette réflexion philosophique et théologique sur la création. Voyez, la session est intitulée Création et recréation. Point de vue de la foi. La recréation est plus immédiate. C'est le mystère de la rédemption. Au point de vue de notre intelligibilité, c'est-à-dire de notre réflexion théologique, la création est antérieure, parce qu'on ne peut comprendre vraiment ce que c'est que la recréation en regardant la création. Alors, je signale tout de suite ce petit problème d'aujourd'hui, qui est un problème important. La tentation, je dis que c'est une tentation. La tentation aujourd'hui, pour beaucoup de théologiens, c'est de dire le problème de la création, c'est un problème philosophique, c'est un problème scientifique. Donc n'en parlons plus. Et ne parlons que du problème de la rédemption. Je me souviens, il y a peut-être maintenant 25 ans, c'était une session à Rome où on m'avait invité comme philosophe, session de théologiens français, belges, espagnols, italiens. C'était très net. Tous les noms habituels des théologiens français étaient là. Dominicain, jésuite. Et tout le monde était d'accord là-dessus. Saint Thomas parle de la création, mais aujourd'hui, n'en parlons plus. Au plan théologique, le théologien parle, lui, de la foi. Or, au point de vue de la foi, c'est le mystère du Christ qui est premier. Et donc, partons tout de suite de la rédemption. Et de la recréation. Le problème de la création, ça pose beaucoup trop de problèmes. Donc, c'est la position actuelle pour la plupart des théologiens. Je n'ai pas fait l'enquête pour savoir s'il y en avait quelques-uns qui refusaient ce point de vue-là, mais c'est la position habituelle actuelle. On ne parle plus que de la rédemption. Au plan de la foi, j'allais dire au plan d'une attitude de théologie mystique, c'est bien évident. Nous partons du mystère de la rédemption, puisque c'est à la rédemption que nous sommes nés de nouveau. Prenez, parce que c'est intéressant quand même, hein, de voir comment Jésus a quand même éduqué. Problème de la catéchèse aujourd'hui. La catéchèse, c'est quand même un gros problème. Et c'est intéressant de savoir un peu comment Jésus a éduqué. Or, quand vous regardez la manière dont Jésus éduque, Jésus ne commence pas par la création. Pas du tout. Jésus commence. Je prends Saint Jean, puisque on est ici à Saint Jean. Et que c'est dans Saint Jean que c'est le plus intelligent, le plus construit, le plus réfléchi. Il commence par Cana. Transformer l'eau en vin. pourrait dire, évidemment, ça regarde quelque chose de la création, l'eau et le vin. Mais ce n'est pas le problème de la création, quand même, c'est le problème de l'amour humain. C'est le problème des noces. Les noces, ce n'est pas la création. Puis si vous êtes attentif, vous voyez que après Cana, c'est tout de suite le problème. Jésus qui chasse les vendeurs du temple. Puis en troisième lieu, Nicodème. Donc, l'ordre de la catéchèse surnaturelle, divin, si je prends un ordre de théologie mystique, je m'appuie directement sur la foi, j'ai donc Cana. J'ai Jésus qui chasse les vendeurs du temple. Et puis Nicodème. Jésus qui parle à un théologien. C'est intéressant. Un docteur en Israël. Cana, l'amour humain. Et noces. C'est normal qu'il y ait transformation de l'eau en vin. Le temple, l'adoration. Nicodème, la naissance nouvelle. Ça, point de départ de Saint Jean. Un ordre de catéchèse. Je crois que l'ordre dans Saint Jean de catéchèse est remarquable. C'est difficile de faire mieux. Mais vous êtes déjà assez vivant pour comprendre Saint Jean, l'évangile de Saint Jean. Peut-être que nos petits bambins ont de la peine à comprendre ça. Quoi, je ne sais pas, Cana, tout le monde comprend bien. Le temple aussi. Nicodème, en expliquant, on arriverait. Oui, c'est un ordre. Je suis très sensible à l'ordre. Hein. Parce que le propre du sage, c'est d'ordonner. Ce qui manque le plus, un ordre profond, pas un ordre logique, un ordre profond, un ordre qui donne l'explication. Parce que si vous commencez par le désordre, vous ne comprenez rien. Vous ordonnez un peu. Bon, vous avez ça. Alors vous voyez, si je réfléchis un peu, Cana, transformation de l'eau en vin. Quelqu'un comme Saint Augustin, qui est un théologien quand même, un grand théologien pour notre Occident, Saint Augustin dit transformation de l'eau en vin, le passage de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, le passage de la créature à la recréation. L'eau en vin. Qu'est-ce que nous pouvons, humainement parlant, nous pouvons, nous, être de bons serviteurs ? L'eau. On essaie d'aimer. Et Jésus transforme l'eau en vin, c'est-à-dire en un amour parfait. Donc c'est le passage de l'amour humain à un amour divin. C'est bien le mystère de la rédemption. L'adoration à le temple, l'adoration, on le verra, c'est quand même une attitude très fondamentale qui regarde le Créateur. Est-ce que on adore le Créateur ? Donc, la création serait ici. C'est intéressant de voir ça. Et ce qui est encore plus intéressant à voir, c'est qu'il y a quelque chose qui étouffe l'adoration, c'est le commerce. C'est assez actuel, ça. Je crois que l'économie, il y a des gens très forts en économie qui ne savent pas du tout ce que c'est que l'adoration. commenciez un cours sur l'économie, n'est-ce pas ? Vous voyez, les grandes écoles pour l'économie. On dirait qu'il faut d'abord commencer par l'adoration. Tiens, mais ils sont fous, ils sont complètement fous. Et il fait ça. On a transformé le temple en un lieu de commerce. C'est mieux, vous savez, de transformer les églises en un lieu de commerce. On transforme le temple en un lieu de commerce, un lieu où on change, on vend les animaux, en vue évidemment de l'adoration, mais c'est quand même un lieu de commerce. Et Jésus dit pas du tout le lieu d'adoration, des adorateurs. Donc, un rappel à quelque chose de fondamental, la création. Et ici, la nouvelle naissance, c'est encore la nouvelle naissance, naître de l'eau et de l'esprit. On retrouve l'eau, tiens. Et puis l'esprit. Petite explication. L'eau, c'est nous. C'est notre bonne volonté. Et puis l'Esprit, c'est l'Esprit Saint. On est mystère de la grâce. Donc, c'est encore la recréation. C'est très curieux, hein ? Si vous êtes attentif à ce début de l'évangile de Saint Jean, qui est le terme de toute la révélation, et qui est, je crois, un des passages très intelligents. On peut réfléchir beaucoup là-dessus. Faire tous les 5 jours sur les 3 premiers gestes de Jésus. C'est quand même 3 premiers gestes de Jésus. Et ces 3 premiers gestes de Jésus sont réservés au peuple d'Israël. Hein ? N'oublions pas. La catéchèse regarde un milieu donné. Et le milieu dans lequel il faut découvrir cet ordre, c'est Israël. Jésus ne parle pas aux Grecs. Il parle à Israël. Israël, ce sont des croyants. Ils croient dans un Dieu unique, créateur. Ah, intéressant, ça rappelait ça. Donc, Jésus présuppose, en parlant à son peuple, qu'ils sont croyants et qu'ils croient tous en un Dieu créateur. Et il montre à partir de là ce que lui vient apporter. Qu'est-ce qu'il vient apporter ? Transformation de l'eau en vin. Purification d'un primat économique. Il faut l'adorer. Reprendre le premier commandement qu'on avait oublié. Et puis rappeler un Nicodème qui avait complètement oublié. Toi, un docteur en Israël, tu ne sais pas ça ? Jésus lui fait la leçon. Un théologien qui oublie le mystère de la grâce. On voit très bien, purification, hein. C'est très intéressant de voir ça, vous voyez. Parce que vous voyez, Cana, c'est le côté affectif. C'est donc le cœur. Le cœur capable d'aimer. L'amour. Et l'amour humain. L'adoration, c'est encore l'amour, mais c'est l'amour fondamental à l'égard de Dieu. Et Nicodème, c'est de comprendre la gratuité de la grâce. Vous avez 3 aspects de l'amour. Hein ? En fait, ces 3 aspects parlent de l'amour. C'est bien une théologie mystique. On part de l'amour. Et on regarde ces 3 grandes dimensions de l'amour. L'amour humain, l'amour dans l'adoration, et l'amour absolument gratuit de la naissance nouvelle. Tout ça présuppose la création. Ça n'aurait aucun sens sans la création. C'est ça que je voudrais que vous compreniez. Parce que ça me semble très important. Jésus parle à des croyants qui vivent de l'adoration à l'égard du Créateur. Mais ces croyants ont un peu oublié ce qu'était le Créateur. Ils l'ont un peu oublié. Et Jésus le rappelle. Ils l'ont oublié parce qu'au fond, l'amour humain, quelquefois, nous fait oublier l'adoration. Il y a des fiancés qui, au moment de leur fiançailles, commencent à adorer, et il y a des fiancés qui, au moment de leur fiançailles, n'adorent plus. C'est un fait. L'économie et les soucis de l'économie risquent quelquefois de faire oublier complètement le point de vue de l'adoration. Tout est ordonné ça. Et les théologiens risquent d'oublier la gratuité de l'amour divin. Il faut naître d'en haut. Quand même très très curieux de voir ce début de Saint Jean. Et c'est beau. Mais j'aimerais bien que vous commenciez ces jours de théologie, de réflexion théologique, en lisant ça. Et en y réfléchissant, c'est pas rien, c'est le début. Et Jean nous donne un ordre que vous ne trouvez pas dans les synoptiques. Un ordre très très intelligent, réservé à Israël. C'est réservé à Israël. La Galilée, Jérusalem. Et à Jérusalem, les deux pièces maîtresses. Le temple et les docteurs en Israël. Pas de mieux. Donc, vraiment, Jésus regarde son peuple dans un regard très, très réaliste et très fort. En tant que théologien, je réfléchis. Je dis, mais la création n'est pas immédiatement explicitée. C'est très juste. Tout à fait d'accord. Mais attention, il y a 2000 ans de préparation. Puis Abraham. Et tout l'Ancien Testament, c'est la pédagogie divine pour l'adoration. Je ne peux pas séparer ce que Dieu a uni. Dieu a uni la Nouvelle Alliance et l'Ancienne en mettant un ordre entre ces deux alliances. Je n'ai pas le droit de les séparer. Il dit, moi je prends uniquement le Nouveau Testament. L'Ancien Testament, c'est périmé. Ah, pas un iota de la loi ne disparaît. Pas un iota de la loi ne disparaît. Et donc, l'adoration est présente. Je ne peux pas supprimer ça. Oui, c'est important de se rappeler ça. Je vous dis, c'est actuel, ça. Les théologiens d'aujourd'hui voudraient uniquement partir du surnaturel. Ou bien au contraire, ils ne veulent plus regarder que le naturel. C'est très curieux. On ne retrouve plus cet ordre voulu par Dieu, l'ancienne alliance, 2000 ans de préparation. Je sais bien que 1000 ans pour Dieu, c'est comme un jour. De sorte que 2000 ans de préparation, 2 jours de préparation. Nous pouvons les reprendre en 2 jours. Hein. 2000 ans de préparation. Et puis, Jésus qui vient montrer quelque chose de nouveau. Donc, prenez bien conscience de ce qu'il y a de juste et ce qu'il y a de partiel dans cette réaction actuelle des théologiens. Ne parlons plus de la création. Soyons tout de suite des croyants, des chrétiens. Si je réfléchis un instant, pourquoi cette réaction ? Elle est assez facile à comprendre. C'est que nous nous trouvons aujourd'hui devant des problèmes que saint Thomas ne connaissait pas, et qui sont des problèmes qui posent le problème de la création dans des perspectives toutes nouvelles. L'évolution est ce que les savants aujourd'hui veulent expliquer de la création. La création, c'est très très curieux et c'est très intéressant à voir ça. La création, qui est le grand problème fondamental de toutes les traditions religieuses, si on avait le temps, on ferait l'enquête. Je l'ai faite au plan philosophique. Toutes les traditions religieuses s'appuient, se fondent sur le problème de la création. Vous savez bien, la tradition la plus ancienne, commence à le savoir, la tradition la plus ancienne au point de vue religieux, c'est la tradition colombienne. Au commencement étaient le soleil et le canard. Oui, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Il y a une vieille tradition colombienne, c'est la plus ancienne que nous savons. Je n'ai plus les dates, mais ça n'a pas d'importance. Vous trouvez ça dans n'importe quel dictionnaire. Au commencement, était le soleil et le canard. Le canard était enchaîné par le soleil. Au commencement, était le canard et le soleil. Et le soleil dit au canard, il n'est pas bon pour toi d'être seul. Hein, on retrouve des petites phrases connues. Il n'est pas bon pour toi d'être seul. Plonge dans les eaux. Tu retrouveras de la glaise et à partir de là, je pourrai former l'homme. Hein, curieux. Ceci pour vous montrer que les plus anciennes traditions religieuses parlent du problème de la création. Je crois que c'est coextensible avec toutes les traditions religieuses. Tradition religieuse et création, ça va de pair. Et on comprend pourquoi. Parce que les traditions religieuses doivent nous révéler le Créateur, Dieu. Les traditions religieuses parlent de Dieu, le Créateur, et rappellent que l'homme est créé en dépendance de Dieu. Les traditions religieuses rappellent l'adoration. Premier commandement, un seul Dieu tu adoreras. Et dans ces traditions religieuses, il y a une purification de ces traditions religieuses. Les 11 premiers chapitres de la Genèse. C'est quand même pour nous très important. Les 11 premiers chapitres de la Genèse. L'Esprit Saint lui-même a voulu purifier, en se servant des hommes, a voulu purifier ces traditions religieuses qui impliquent des mythes. Ça implique beaucoup de mythes, ces traditions religieuses. Quand on dit au commencement, il y avait le soleil et le canard, je crois que c'est un mythe. Vous n'avez jamais vu le canard numéro un. Je ne sais pas où il existe. Non. Au commencement, le soleil et le canard, c'est un mythe. C'est-à-dire que c'est une vision religieuse pour essayer de voir le commencement. Les hommes sont à la recherche du point de départ. Ils veulent savoir d'où ils viennent. C'est normal. Tant qu'on ne sait pas d'où on vient, on est un orphelin. C'est la définition d'orphelin. L'orphelin ne sait pas d'où il vient. C'est pour ça qu'on aime de chercher. Pourquoi certaines personnes aiment de chercher les vieilles traditions familiales. Jusqu'où on peut remonter. On cherche ça dans les archives. Palpitant, c'est extraordinaire. On retrouve encore un vieux. Alors évidemment, on ne remonte pas jusqu'au canard. Mais pour remonter au canard, il faut un mythe imaginatif. Et on projette ça. On dit, comment soit-il le canard ? Ben, c'est bien, vous descendez du canard. Ça explique beaucoup de choses, pas ? Ça explique certaines réactions primitives de certains qui tout d'un coup deviennent des canards. Ça peut très bien expliquer les mythes, hein, les mythes. Donc, les traditions religieuses, toujours, charrient, parce que ça charrie beaucoup de choses, le problème de la création. Et le problème de la création fonde l'adoration, fonde la liturgie, fonde les initiations religieuses. Tout ça est fondé sur le problème de la création. Et le problème de la création nous parle du Créateur et de Dieu. Le mot Dieu est toujours lié au Créateur et toujours lié aux traditions religieuses. Problème tout à fait nouveau, c'est que dans notre monde d'aujourd'hui, la science va vouloir expliquer la vie, va vouloir expliquer l'être. C'est tout à fait nouveau. Ce n'est plus les traditions religieuses. Le problème du commencement va vouloir être expliqué par la théorie de l'évolution. Et on prétendra que la théorie de l'évolution est scientifique. Donc on veut expliquer scientifiquement le point de départ. Le premier. C'est très nouveau ça. Hein, c'est très très nouveau, faut bien comprendre. C'est pas vieux. Ça fait partie de la modernité. Si on veut être moderne, on prend cet habit-là. On laisse tomber les vieilles traditions religieuses mythiques et on prend l'habit moderne, la redingote moderne, qui n'est plus une redingote, et qui est l'évolution. L'évolution va expliquer le problème de la création. Et après l'évolution, c'est maintenant, on va expliquer scientifiquement le début de notre monde. L'évolution reste dans la vie. Là, il faut expliquer, au-delà de la vie, le monde physique. Point de départ. Qu'est-ce qu'il y a eu au début ? Cette espèce d'éclatement. Et on veut l'expliquer scientifiquement. Et l'autre jour, on parlait de ces questions-là, quelqu'un qui est docteur en mathématiques et qui connaît très bien tout le problème aux États-Unis, me montrait le livre qu'on donnait aux États-Unis dans les dernières classes, juste avant l'université, l'explication du monde. L'explication scientifique du monde. Et c'est dit explication scientifique du monde. On explique notre univers scientifiquement. Une hypothèse, mais cette hypothèse, on la considère comme la seule chose intelligible pour notre univers. Vous voyez, transformation des traditions religieuses, mythiques, en une pseudo-explication scientifique. Parce que c'est un mythe, mais un mythe très intelligent. Les nouveaux mythes qu'on baptise de scientifiques, mais ce sont les nouveaux mythes et qu'on essaie d'expliquer. Devant ça, les théologiens ont la panique. Il faut appeler les choses par leur nom. Les théologiens ont très très peur de la science. Très très peur. Je connais très peu de théologiens qui n'ont pas peur de la science. l'histoire de Galilée. La suprême injure, c'est de dire ça. La suprême injure. Oui, les dernières instructions de Ratzinger sur la bioéthique, on retrouve l'affaire Galilée. Une fois qu'on a dit ça, placé. Alors, c'est un fait. Je l'ai entendu de mes propres oreilles et je le vois, je le constate. C'est un fait. C'est que le théologien ne veut plus parler de la création, de l'origine de notre monde, de l'origine de la vie. Alors, voyez tout de suite la conséquence. La conséquence, c'est que la faute première doit s'expliquer scientifiquement. Le péché originel doit s'expliquer scientifiquement. Et vous avez le livre du père Martelet qui, dans ce domaine-là, est le livre majeur. On veut expliquer scientifiquement le péché originel. C'est forcé, vous voyez. Tout ça se tient. C'est la recherche des premiers. Les premiers dans l'ordre de l'origine. Alors, et dans l'ordre de l'origine, le monde, l'univers, notre univers physique. Les vivants, l'esprit, le péché, voilà les premiers. Et quelquefois on met l'esprit, donc l'amour, la liberté. Les premiers, c'est ça qui est intéressant à voir. On cherche les premiers. Découvrir scientifiquement ses premiers. Ça, je crois que c'est très très important pour nous de le comprendre. De comprendre, vous voyez, ce renversement, la recherche des premiers était laissée dans le monde des traditions religieuses. Passer des traditions religieuses mythiques à une explication scientifique, c'est un progrès énorme, une libération. C'est vrai, c'est une libération. Toute la question de savoir quelle est la valeur de ces explications scientifiques. Est-ce un nouveau mythe qui a pris un nouvel habit? On ne dira plus le canard et le soleil, on emploiera des mots scientifiques. Dire, voilà le premier, voilà comment ça s'explique. Ça ne peut pas s'expliquer autrement. Ou diverses hypothèses. Voilà les deux. Hein. Voyez l'oubli. Alors, je dis tout de suite, hein. Je n'opte ni pour l'un, ni pour l'autre. Alpha, oméga. Hein. Voyez bien. Puisque les traditions religieuses, c'est très ancien. C'est très ancien les traditions religieuses. Il faut remonter quand même assez loin. On touche le préhistorique. Et le préhistorique, ce sont les traditions religieuses. Puis, l'aspect moderne d'expliquer les premiers. Ah, ce qui est très intéressant à noter, c'est que vous retrouvez le même appétit humain d'expliquer ce qu'est le premier. Ça prouve que c'est très très ancré en nous. On a besoin de grand-père. On ne peut pas être orphelin. Je ne vous laisserai pas orphelin. Jésus le dit. Hein. Et il sait très bien qu'en disant ça, il donne la sécurité. Je ne vous laisserai pas orphelin. Parce que c'est le même désir, c'est le même appétit. Savoir d'où on vient, d'où vient notre univers, d'où vient la vie, d'où vient l'esprit, d'où vient le péché. Quatre grandes questions. Il n'y en a pas tellement. Hein. Quatre grandes origines. D'où ça vient. Donc on retrouve ça de commun. Comprenons que entre les deux, il y a eu, je dis il y a eu, puisque les théologiens abandonnent, entre les deux, il y a eu une recherche théologique et philosophique. Et c'est cette recherche philosophique et théologique qui est mise entre parenthèses. Et on abandonne cela à la science. Je crois que c'est comme ça qu'on doit le voir aujourd'hui. Alors, comprenons d'abord cette recherche philosophique. Très vite, je dis très vite, dans notre culture occidentale, je ne prends pas l'Orient, on retrouve des choses tout à fait analogues. Hein. Vous savez, l'homme est le même, qu'il soit oriental ou occidental, il est le même par rapport aux traditions religieuses. Évidemment, le soleil et le canard, ce n'est pas l'Orient, c'est l'Occident. Mais on trouverait sans doute quelque chose, je n'ai pas cherché. Ça m'intéresserait de voir quelqu'un qui, du côté de l'Orient, est très calé là-dessus, me donnerait les premières traditions religieuses sur le commencement. Si parmi vous, il y en a qui le savent, ça m'intéresse beaucoup. À titre de documentation, ça ne change rien du tout à notre question, mais c'est intéressant. Posez-vous moins le problème. Très vite, les philosophes, c'est comme ça qu'est née la philosophie. La philosophie, c'est la conquête du logos sur les traditions religieuses. C'est ça la philosophie. La philosophie grecque, c'est ça. Le logos, hein, faut bien savoir ce que ça veut dire. Le logos grec. Traduit en latin, verbum. Et en français, verbe, le logos, la pensée, pas le cogito, mais la pensée. Trouver l'intelligibilité des choses. C'est comme ça qu'est née la philosophie. La philosophie, c'est l'homme qui veut saisir l'origine des choses, le point de départ des choses et la finalité. Très vite, le philosophe se pose la question : pouvons-nous connaître l'origine ? Pouvons-nous connaître la fin ? Origine et fin se tiennent. Historiquement, c'est très vrai que l'origine a été posée en premier lieu, je crois. Mais très vite, la finalité. Oui, dans le monde grec, donc dans l'origine de notre culture, hein, n'en pouvait rien, et moi non plus, c'est comme ça. Notre culture est latine, grecque. Encore un peu, je dis encore un peu, parce que de plus en plus, elle devient américaine, elle devient scientifique, technique, et le latin et le grec sont très, très loin. Mais on le retrouve quand même un peu, dans le langage. On retrouve encore un peu des traces. Mais de fait, historiquement, on peut dire notre culture grecque, notre culture s'enracine dans le latin et le grec, et l'origine de la culture grecque commence tout de suite par deux recherches. L'origine de notre univers, l'école de Milet. Ceux qui ont été en Asie mineure, qui ont été à Éphèse, ont vu sur une pancarte indiquer Milet. Ils se sont demandé ce que c'était. Ils ont été voir. Il n'y a plus rien. Milet, c'est le point de départ de la réflexion philosophique grecque. L'origine de notre univers. D'où ça vient ? Le fondement. Et l'école pythagoricienne, quelle est la fin de l'homme ? Alors, c'est très intéressant de voir que la philosophie, elle est née dans ces deux grandes interrogations. Le point de vue du fondement. Le fondement de l'univers. Et puis, une attitude religieuse, la fin de l'homme. De fait, ces deux aspects tout à fait différents, deux écoles différentes. Ce qui montre bien qu'il y a en nous deux appétits naturels. La recherche de l'origine, le fondement. Et la recherche de la fin, la finalité. Quel est le bonheur de l'homme ? C'est pas en découvrant l'origine que je découvrirai le bonheur. Mais de fait, il y a eu tout de suite ça. Et la philosophie a essayé de voir ce qu'il y avait de juste, de vrai, dans ces traditions religieuses. C'est pour ça que je peux dire que la philosophie grecque, c'est la conquête de l'intelligence, du logos, sur les traditions religieuses. C'est un fait. Je ne peux pas nier ça. Et jusqu'au bout, ça existe. Dans toute la période de la philosophie grecque. 8 siècles avant Jésus-Christ, 2 siècles après Jésus-Christ, c'est à peu près ça. La période grecque, c'est 1000 ans. 1000 ans de culture grecque. Depuis l'école de Milet, avant Hésiode, c'est le premier. Et ce qui caractérise cette période philosophique, c'est la recherche de la vérité. On cherche la vérité. Le philosophe, c'est celui qui recherche la vérité. Et c'est ça qui l'intéresse. Il recherche à tout prix... Qu'est-ce qui est à l'origine de tout ? Et quelle est la finalité ? Qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Le grand phénomène, non plus des traditions religieuses, mais de la foi. Oui. Je fais exprès tout ça pour que vous arriviez à distinguer les couches successives et montrer que ces couches successives, on les voit historiquement. Tradition religieuse, naissance du logos grec et la foi. Alors évidemment, si je prends un point de vue historique, je pourrais dire ceci. Parce qu'il ne faut pas l'oublier. Les traditions religieuses Orient et Occident mettaient un nom pour les Grecs, Hésiode. Les traditions religieuses ont été purifiées par la foi. Le mystère de la foi qui regarde la révélation. En gros, les traditions religieuses, l'homme cherche son origine, il cherche Dieu. La foi et la révélation, Dieu vient au secours de l'homme. Vous voyez, on pourrait mettre deux vecteurs différents, les traditions religieuses, l'homme dans sa recherche vers Dieu, et le mystère de la foi, Dieu qui se révèle à l'homme. Ça part de Dieu. Les traditions religieuses, c'est une montée vers Dieu. De fait, la foi et la révélation avec Abraham, parce que ça commence avec Abraham, c'est 1000 ans avant Hésiode. Donc, il y a eu d'abord première purification des traditions religieuses. Ça vient de Dieu, la foi. Et là, vous avez quelque chose de très étonnant, on le verra, la Genèse. La Genèse n'est pas du temps d'Abraham. Hein. La Genèse est beaucoup plus tardive, selon ce qu'on dit aujourd'hui, hein, historiquement. À peu près comme Hésiode, c'est ça qui est assez curieux. À peu près parallèle. Mais alors, chapitre 1, chapitre 12. Première purification des traditions religieuses donnée par la révélation. Deuxième purification des traditions religieuses donnée par le Logos. Le Logos grec, l'intelligence. Très étonnant ça. Deux purifications des traditions religieuses. Différentes, hein, totalement différentes. Bon, je ne cherchais pas un syncrétisme, hein, c'est tout à fait différent. La Grèce, avec ses philosophes, cherche à purifier les traditions religieuses. Qu'est-ce qu'il y a de vrai? Le problème de la vérité. Oui, les traditions religieuses ne cherchent pas premièrement la vérité. C'est une pédagogie. Les traditions religieuses nous apprennent à vivre. C'est au niveau de la vie. C'est au niveau de la vie, les traditions religieuses. Une pédagogie religieuse. Tandis qu'au contraire, la réflexion philosophique, c'est la recherche de la vérité. Et dans cette recherche de vérité, on va tout de suite essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a de juste dans ces traditions religieuses. Qu'est-ce qu'il y a d'authentique? Qu'est-ce qu'il y a de mythique? Oui, le logos et le mythos, comme dira Heidegger. Et Heidegger considérera que c'est ça, le point de départ de la philosophie, c'est le logos qui lutte contre le mythos, le mythe, les traditions religieuses. Et d'autre part, à l'intérieur de la révélation, la Genèse, qui purifie les traditions religieuses. La purification des traditions religieuses. Vous voyez, c'est très curieux de voir Hésiode et les 11 premiers chapitres de la Genèse. Il y a des parallélismes très intéressants à faire. Parce que ce sont les deux grandes purifications des traditions religieuses. Hésiode, d'une façon beaucoup, beaucoup plus élémentaire. Et les 11 premiers chapitres de la Genèse, d'une façon très forte. Je crois que ça, c'est très important de comprendre qu'il y a une base commune, les traditions religieuses, l'homme religieux. Alors, le logos grec va essayer de comprendre quel est le premier. Et quel est l'ultime? Le logos cherche toujours le premier dans l'ordre de l'origine et l'ultime dans l'ordre de la perfection. Toujours. Oui, le point de départ qui était séparé, très vite va s'unir. Et au cœur de toute pensée philosophique, il y a la recherche du premier dans l'ordre de l'origine et de l'ultime dans l'ordre de la finalité. Les deux grands aspects qui sont là tout le temps. Et le problème grec, du moins la philosophie grecque, va regarder le problème de la création. Et l'ultime, le problème du bonheur. L'homme, d'où vient-il? Et l'homme, vers quoi il va? Ben, le problème philosophique. Est-ce que l'intelligence humaine peut découvrir par elle-même cela? Le problème du sémite, par la foi, on va montrer que l'homme est créé à l'image de Dieu. Donc, l'origine, la création. Et vers quoi il tend? La recréation. La rédemption. Vous retrouvez ces deux grandes questions. D'où l'homme vient et où l'homme va-t-il? Ça, c'est les grandes interrogations. C'est capital de se poser ces questions. Autrement, on ne comprend rien au problème. Les deux grands problèmes, hein, qui, encore une fois, sont amenés d'abord dans les traditions religieuses. L'origine et la fin. Parce que les traditions religieuses donnent l'origine et le point de vue terminal. Vous voyez, si vous regardez l'écriture, création, apocalypse, l'origine et ce vers quoi on tend, l'apocalypse. C'est bien la fin. Et tous les deux sont donnés dans une perspective de foi, en assumant des traditions. Il y a toujours eu les grandes traditions apocalyptiques, comme il y a toujours eu les grandes traditions de l'origine. Alors, on comprend comment le problème de la théologie s'est posé avec, je prends tout de suite, saint Thomas. Saint Thomas représentant un sommet de réflexion théologique tenant d'une part la révélation, d'autre part utilisant la philosophie. Et je crois que la synthèse la plus remarquable, c'est Thomas d'Aquin. Je dis ça pas parce que je suis dominicain, je dis ça c'est parce que l'Église ne cesse de le rappeler. Et je dis ça aussi parce que non seulement l'Église cesse de le rappeler, mais que dès qu'on a regardé un peu Thomas d'Aquin, on s'aperçoit que c'est à la fois le saint et le génie. C'est intéressant de rencontrer un saint génial. C'est intéressant de rencontrer un génie qui est un saint. Un génie, c'est toujours intéressant, mais un saint génial, c'est encore plus intéressant. Parce que ça prend l'intelligence et le cœur, vous comprenez bien. Le génie, c'est l'intelligence, et le cœur, c'est le saint. On n'est pas saint parce qu'on est génie. Mais le génie ne s'oppose pas au saint. Mais on peut être saint sans être génial. Au moins génial du côté de l'intelligence et du côté artistique. On est génial du côté de l'amour. Vous voyez, une mère Teresa est géniale du côté de l'amour. C'est pas génial du côté de l'intelligence, non. C'est génial du côté de l'amour. Un Saint-Vincent, c'est génial du côté de l'amour. C'est pas génial du côté de l'intelligence. Satama fait l'union des deux. Ce qui est très rare. Ce qui est très très rare. Et vous voyez, c'est ça qui me semble très important, c'est que il va assumer toute la grande tradition de la révélation. Il est croyant. Il veut mettre au service toute la tradition philosophique. Et il va nous donner une synthèse du problème de la création et du problème de la recréation. Et ça, c'est au cœur de Thomas d'Aquin. C'est au cœur de la somme. Bon, j'espère que vous comprenez ce troisième moment. Hein. Suivez bien. Ayant ce troisième moment, je peux me poser la question, est-ce que la pensée moderne, qui veut donner une explication de l'origine de notre univers par le point de vue scientifique, par le point de vue de l'évolution, peut-elle remplacer la théologie? La question que nous devons nous poser au terme de ces 5 jours, j'espère que vous pourrez répondre. C'est la question qu'on se pose. Mais si on ne se pose pas de questions, on ne découvre rien. Vous savez bien, quand l'intelligence se pose une question, elle est comme un chien de chasse en alerte. On est devant le gibier. On se tient en arrêt. On ne progresse que quand on interroge. Quand on n'interroge plus, on ne progresse plus. On dégringole le fleuve avec tout le monde. Et les cadavres vont plus vite que les autres. Donc il faut se poser une question. Hein. Et la question, elle est celle-là. Pouvons-nous, si on est théologien, session théologique, pouvons-nous, si on est théologien, dire saint Thomas, très bien, au Moyen-Âge, l'âge des cathédrales. Aujourd'hui, non. La philosophie est supplantée par la science. C'est la science qui a pris la place. Les sciences humaines. C'est plus la philosophie. Non, les sciences humaines. Et c'est les sciences humaines qui supplantent la philosophie. Et donc, la théologie n'a plus rien à dire. La théologie va tout simplement se réfugier dans la foi. Le théologien sera un croyant qui va tout simplement donner une sorte d'herméneutique de la révélation. Une sorte d'explication herméneutique, une sorte d'explication, une sorte d'interprétation. Et c'est la science qui prend possession de ce domaine de l'origine de l'univers, de la vie, de l'esprit, de la liberté, de l'amour et du péché. Lisez le livre de Martelet et vous verrez que je n'exagère pas. Je dis exactement où l'on en est. Il faut voir les choses nettement, si on ne les voit pas, c'est la peine de faire de la théologie. On essaie de comprendre. On on essaie de comprendre pourquoi il y a cet abandon total de la théologie pour le problème de la création. Parce qu'on a peur des savants. Et pourquoi on a peur des savants? C'est qu'il n'y a plus de philosophie. S'il n'y a plus de philosophie, il ne peut plus y avoir de théologie. Alors évidemment, on a peur. Alors on se replie. Le phénomène de peur, c'est de se replier. On se replie sur la révélation. Et faites la comparaison, si vous voulez, sur un château fort. On lève le pont pour lever. Et on dit à l'abri. Le savant ne peut pas pénétrer dans la révélation. Le savant ne peut pas pénétrer dans la révélation. La révélation, ça domaine sui generis. Et pour que le savant ne pénètre pas dans la révélation, le croyant ne pénétrera pas dans la science. Chacun chez soi. Vous êtes au cinquième étage, très bien. Moi, je suis au rez-de-chaussée. Le tout, c'est de jamais se rencontrer. Et on arrive. Vous voyez, on en est à cette position-là aujourd'hui. Ça explique, du reste, hein, au point de vue théologique, ce fait de dire « ne parlons plus de la création ». J'espère que ça vous voyez bien. Mais il faut vous le poser comme problème. Hein. Parce que c'est peut-être une solution. Bon, si c'est une solution, ce n'est pas la peine de continuer la session. Hein. Ce n'est pas la peine. Parce que la session va essayer de montrer comment le problème de l'origine du monde ne peut pas s'expliquer par la science. Alors, où je reviens au mythe, où je reviens à la métaphysique, c'est-à-dire à la philosophie, tout court. Et je dis, le problème de l'origine de notre univers n'est pas un problème scientifique. C'est un problème philosophique. L'origine de la vie n'est pas un problème scientifique, c'est un problème philosophique. Le problème de l'origine du péché n'est pas un problème scientifique, mais un problème philosophique. Alors, comprenons bien, quand je dis scientifique, je l'emploie dans le sens moderne. Et j'oppose alors à ce moment-là.